recherche de l'auteur des exposés antérieurs. Et je vais faire une analyse absolument ponctuelle sur la bureaucratie. Et, du moins, je vais l'essayer. Et pour qu'une organisation avance, il faut, à part la volonté politique, il faut évidemment des objectifs, mais il faut des moyens, en particulier la bureaucratie. Et cette bureaucratie doit assumer les objectifs de l'organisation. L'ONU avait créé une double bureaucratie au commencement de sa fondation, l'une chargée spécialisée sur la paix et une autre lentement spécialisée sur le développement et on a ajouté à soi les droits de la personne. Mais comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, l'ONU a multiplié ses instances, entités des organisations qui le composent, des niveaux d'action, si bien que chaque entité est devenue spécialisée dans un thème ou un sous-thème, et on a multiplié une bureaucratie, une technocratie spécialisée. Et moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment ça a eu une forte incidence dans l'actuation des Nations Unies sur le terrain, et en particulier maintenant que, du moins dans le cas de certains pays d'Amérique du Sud, il y a des limitations à l'action de l'ONU, des objectifs qui l'ONU s'est posé. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça signifie pour l'ONU, ces limitations, et de façon concrète, comment agit la bureaucratie locale. Je vais le faire par rapport à deux sujets, les droits des peuples autochtones et la démocratisation, en prenant comme cas d'étude les pays qui s'est dit du socialisme du XXe siècle. C'est le cas de l'Équateur, du Venezuela et de la Bolivie. Je ne vais donc pas parler de l'Amérique latine en général, mais consacre de façon tout à fait ponctuelle à ce que je viens de mentionner. Par rapport aux droits des peuples autochtones, il faut bien dire que les Nations Unies ont été, sinon la principale actrice internationale de promotion des droits des peuples autochtones. Il est devenu celle qui a permis en fait une alliance qui était stratégiquement décisive pour la reconnaissance des peuples autochtones entre les organisations locales et les instances internationales. Ce que ça a permis, c'est limiter la disparition de certains peuples et cultures qui étaient en fait en danger de disparaître. Ça a été aux années 50. Rappeler d'abord la Convention 169 de l'OIT qui a créé un ensemble de protections pour que les peuples qui habitaient des terres à l'époque tropicale surtout et qui avaient le risque de perdre le territoire et perdant le territoire, ils avaient simplement pu disparaître. Donc on a créé une instance à l'époque, la Convention 169 pour les protéger. On peut voir que ce qui était l'enjeu de ces mesures, c'était permettre la pervivance des peuples et garantir leur territoire pour que les cultures puissent se maintenir. Or, ces territoires étaient vraiment un conflit, puisque tout autant les entreprises, certaines entreprises d'extraction de ressources naturelles étaient intéressées, mais aussi les États. Et donc, c'était des terres très prisées, et ça devenait un conflit, le fait de défendre le peuple des Autochtones à ce moment-là. Aussi, la défense des peuples autochtones impliquait un questionnement des États, en particulier en Amérique latine, parce qu'ils avaient une tradition très centralisatrice et aussi uniculturaliste, des négations par la même et des peuples avec des cultures différentes. Et l'objectif de la majorité des États était de les assimiler parce qu'on supposait qu'un État avait une nation. Et s'il y avait plusieurs nations, l'État n'avait pas le droit d'être. Ou, plus précisément, ces nations pouvaient créer une sécession et s'indépendiser, créer une indépendance. Et donc, ça devenait conflictif pour des États qui avaient, au commencement, aux années 40-50 surtout, il y avait des critiques internes qui faisaient que les autorités locales n'étaient pas bien reconnues et acceptées. Donc, voilà, malgré ces questionnements, et en plus il faut ajouter quelque chose de décisif, une partie de l'élite latino-américaine appartient aux oligarchies locales qui avait eu, ou avait à l'époque encore, une bonne partie de la population autochtone dans des conditions de servage. Et donc, il y avait un questionnement implicite au servage, de fait de la promotion des droits des peuples autochtones et aussi des droits de la personne. Et malgré cela, l'ONU a fait la promotion des minorités, la défense des minorités, et aussi l'avancement de cette défense est amené à la constitution des droits collectifs. Donc, constitution et reconnaissance des droits collectifs. On peut donc dire finalement que l'ONU a été une alliée très forte des populations. La convention 169 de l'OIT, la défense des minorités, a pris quand même 15 à 20 ans avant que les États l'acceptent et que la majorité signe ou ratifie. Ensuite, on a ajouté divers programmes pour faire que l'idée de la défense des cultures soit une réalité, appuyant la défense des langues, l'éducation, la promotion de la justice propre et aussi des autorités locales. Un système de justice différent du système de justice officiel. Donc, disons que la promotion du multiculturalisme qui a été créé par les élites latino-américaines a été quand même promue par les Nations Unies. Maintenant, certains États, dont ceux qui se réclament du socialisme du XXIe siècle, tous par ailleurs, très extractivistes comme on les appelle maintenant, des États qui font la promotion extraction minière et pétrolière comme étant la source des vies, de l'économie et de l'État, se disputent maintenant avec certaines organisations autochtones qui s'opposent à l'extraction de ces ressources naturelles. Ils s'opposent aussi donc à la consultation préalable ou tout simplement les contournent, disons, en faisant des fausses consultations préalables. Et finalement, n'accepte pas l'opposition que font ces organisations à ces gouvernements et essaie plutôt de contrecarrer et créer un silence autour d'elles. Aussi, il faut dire que les droits pluriculturels et de reconnaissance de la différence culturelle est devenu plus un discours qu'une réalité. En fait, l'objectif de les rassimiler à ces peuples et ces cultures continue de fonctionner de façon tout à fait accélérée. Donc, disons qu'à la longue, ça devient une certaine négation des droits collectifs, contrairement à l'idée première que l'on faisait avec ce que l'ONU avait proposé. Maintenant, l'ONU locale, face à ces pressions, à ces demandes du gouvernement, de ces gouvernements, qu'est-ce qu'il fait? De façon surprenante, n'affirme plus les principes qu'il défendait auparavant. Et aussi, tout simplement, il cherche d'adapter les discours officiels des gouvernements locaux aux discours des Nations Unies, pas l'inverse. Et donc, accepte de faire des actions que le gouvernement local propose en les justifiant comme faisant partie du programme des Nations Unies, et ce qui devient à la longue une façon de dépenser l'argent prévu du budget de l'ONU, même si ça ne correspond pas aux objectifs officiellement qui officiellement ils devront avoir. Ça devient plus une priorité suprême, dépenser l'argent pour les programmes que remplir les objectifs fixés pour ces dépenses. L'autre objectif, alors, la démocratisation, j'ai vu les limites du temps, avec raison d'ailleurs, Daniel. Je vais simplement rappeler que dans les années 1770, l'Amérique latine avait plein de dictatures et militaire. Et à ce moment-là, l'ONU a été un pilier d'appui aux acteurs sociaux et politiques locaux pour revendiquer la démocratie, les droits des personnes, lutter contre la torture, etc. Ensuite, l'ONU a fait la promotion des mécanismes pour des élections libres et transparentes, en particulier dans certains pays où cela était plutôt douteux de le faire. Et finalement, il a fait la promotion des libertés des personnes pour en particulier permettre la libre expression. Donc voilà les apports importants à la démocratisation. Maintenant, devant les mêmes gouvernements, c'est plutôt un silence qui font les entités de l'ONU au niveau local, en particulier quand on ne respecte pas tout à fait les libertés d'expression ou encore on a fait une justice ad hoc pour juger les opposants comme étant des terroristes ou tout simplement parce que tout simplement ils font la contestation au niveau de la vie, au niveau public. Donc, et par ailleurs, est en train de se généraliser un discours dans ces pays par lequel la liberté vaut s'il y a égalité. Donc, l'égalité en définitive devient secondaire, pardon, la liberté devient secondaire, ce qui prime, c'est les politiques d'égalité et des distributions de la richesse. En fin de compte, on suppose qu'on est en train d'arriver à plus d'égalité et donc ce n'est pas important la liberté. Devant ça, il y a un silence aussi étonnant du côté des acteurs locaux de l'ONU, plutôt des représentants de la bureaucratie précisément spécialisée locale. Je vais formuler rapidement quelques éléments compréhensibles, d'après moi, ou explicatifs. Le facteur qui me semble décisif, c'est la crise du système onusien. Les jours d'hier, on a déjà évoqué un peu. C'est que parallèlement à l'accroissement, à la construction du système institutionnel de l'appareil bureaucratique des Nations Unies avec des traités, des conventions et des accords interétatiques, il y a la dynamique de la scène internationale où les puissances font et défont les choses suivant les intérêts particuliers. Il y a l'intérêt particulier. Il y a une dispute en fait entre l'affirmation du pouvoir, la défense des intérêts des États, et l'acceptation d'une ordre institutionnel, cette fois-ci d'une ordre institutionnel international. Il y a un tiraillement entre ces deux pôles. En deuxième lieu, il y a aussi le fait que les États sont tiraillés entre le multiculturalisme, le multilatéralisme, les organisations multilatérales pour renforcer l'ONU, et la prise en charge de soi-même des intérêts des États par la réduction des responsabilités de l'ONU. Qui ont tendance à les rendre marginales dans le jeu de la scène internationale. Cela implique un certain abandon de l'ONU, de l'appareil ONU par les États. On abandonne, on les laisse fonctionner de façon indépendante dans cette technocratie spécialisée. Et il n'a pas, donc, dans cette logique, une vision d'ensemble. Un certain abandon qui implique l'abandon du projet originel des tendances universalisantes de l'ONU. Derrière ces phénomènes, ce que nous trouvons, c'est la crise de l'État-nation. D'une part, cette affirmation que les États ont une souveraineté, ils veulent l'affirmer en se protégeant de la tendance à la mondialisation et au multilatéralisme. Et parallèlement, il y a la mondialisation qui exige un accroissement de l'internationalisation et donc une limitation inévitable de ces pouvoirs souverains des États. C'est une axe à la fois contradictoire et complémentaire. C'est une pulsion qui ne se résoudra jamais. Elles sont toujours en dispute au niveau non seulement de la scène internationale avec la mondialisation, sinon dans les Nations Unies. Et donc, ça se traduit par une réduction des objectifs principaux au premier des Nations Unies. Et, en troisième lieu, il y a les puissances qui cherchent aussi à contrôler les Nations Unies. Et ils le font en mettant des fonctionnaires, sinon des fonctionnaires, en cherchant à contrôler les décisions et l'action d'exécution en fait. Je me rappelle une petite anecdote. J'ai rencontré un jour un fonctionnaire des États-Unis qui me racontait comment ils avaient fait pour contrecarrer qu'il y ait la majorité des États dans une des réunions antérieures sur l'environnement arrivent à des décisions clés. Les États-Unis ne voulaient pas, comme vous le savez, en principe, ils vont arriver là, à Paris. Mais là, ils ne voulaient pas. Alors, ils me racontaient qu'ils avaient 300 fonctionnaires, 300, pour être dans toutes les réunions parallèles, faire prolonger les heures des réunions, faire que ça dure jusqu'à 4-5 heures. Les autres s'épuisaient, eux, ils faisaient une rotation, et ils pouvaient donc passer, quand les autres étaient épuisés, les positions, et donc arriver aux objectifs qu'ils avaient. Et en plus, il me disait, et en plus, nous avions nos alliés, les fonctionnaires des Nations Unies, qui nous donnaient les informations clés qui étaient en train de se produire, qui, sous la table, étaient en train de se passer. Voilà. Donc, une logique de contrôle très intéressante, très importante, disons. Et conséquence de cela, de tout cela, l'ONU perd sa dynamique d'une organisation internationale qui assume des objectifs universalistes et devient une organisation plutôt fractionnée, compartimentée, dans les faits, malgré les bonnes intentions, et finit par reproduire la dispute internationale à son intérieur et finalement atténue par la même ses fonctionnements, et les bureaucrates terminent plutôt pris dans la logique administrative de répondre au plan administratif, aux dépenses annuelles, etc., beaucoup plus qu'à l'accomplissement des visions ou des objectifs fixés par la même entité ou d'avoir une vision internationale. Et je rappelle cependant pour conclure qu'il y avait au commencement de l'ONU, des Nations Unies, des technocrates qui étaient convaincus de la cause. Ils voulaient assumer l'organisation et cette cause universaliste au-delà des intérêts particuliers des États. Et en fait, ils ont eu une incidence décisive, surtout au commencement. Le scénario international dont on a évoqué tout à l'heure, des fins de la guerre, des fins du système colonial, des colonies, pouvait amener à diverses possibilités à l'époque, mais il y a eu un noyau au sein des Nations Unies qui ont poussé plutôt pour créer cette idée du développement. Je vous rappelle qu'il y a eu une entité, une organisation décisive à l'époque qui s'appelle UNCTAD, qui a fini par créer les projets de développement qui sont devenus après les symboles des Nations Unies. Et c'est impossible de comprendre la définition de l'UNCTAD qui était finalement dit, écoutez, il y a des pays qui doivent arriver au développement, il faut pour eux des marchés, il faut créer des conditions pour qu'ils aient accès au marché, mais aussi, aspect fondamental, il faut des ressources pour les permettre d'arriver à de meilleures conditions. Et c'est là qu'il naît les projets de développement. Eh bien, l'UNCTAD serait impossible s'il n'y avait pas des gens comme Raoul Prebisch qui faisait la proposition d'avancer vers la logique du développement. Et ça, c'était une bureaucratie qui disait qu'il faut le faire au-delà des intérêts de puissance, mais au-delà aussi des intérêts des petits États. Donc ces barons, je l'appelle un peu comme ça, les barons de la bureaucratie internationale, un peu comme en France, il y a les barons de l'État qui assument les intérêts du républicanisme au-delà des gouvernements qui soient rouges, bleus ou de n'importe quelle couleur, et qui se maintiennent dans sa logique de faire la promotion d'un État qui assume les intérêts collectifs. On pouvait imaginer pareil au niveau international, de cette bureaucratie qui finissait par assumer une vision plus générale, mais là, ce que j'essayais de vous montrer, c'est comment elle s'efface, elle ne remplit plus la fonction intermédiaire de médiation idéologique entre les intérêts de l'État et ses idéologies. Et en plus, maintenant, j'essaie de vous démontrer comment à l'intérieur de l'État, cette dispute internationale qui ne se résout jamais termine par façonner l'organisation au niveau interne. Merci bien.
Merci.